Bonjour à tous, et tout particulièrement aux visiteurs, ceux que je ne connais pas. Soyez les bienvenus. Comment allez-vous? Je vous invite à prier. Père éternel, ce matin, je m'adresse à toi au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur, pour t'honorer, te rendre grâce, te dire merci. Je te demander aussi, Seigneur, de nous conduire par ton esprit, que nous laissions, Seigneur, conduire et diriger par lui pour être à l'écoute, Seigneur, de ta parole, ce que toi, tu as à nous dire aujourd'hui, et que tout soit pour ta gloire. Au nom de Jésus. Amen. Ce titre que vous voyez là, c'est un titre qui juste a pour vocation vous donner déjà un petit aperçu de quoi je vais parler. Vous savez, il nous arrive que dans notre vie chrétienne, qu'on est venu à Christ il y a 5 ans ou il y a 30 ans, il y a tout un tas de choses qui se sont installées dans notre, au niveau de nos croyances, et que parfois on les prend presque comme pour des croyances bibliques, mais en fait ce sont des choses qui se sont installées dans notre logiciel et qui juste font partie de la culture religieuse, mais cette culture religieuse qui véhicule, qui enseigne des choses qui n'ont pas forcément un fondement biblique. Et le fait de notamment d'avoir peut-être grandi même dans l'évangile et d'avoir été dans d'autres communautés, aux unions d'église, aux familles d'église, ça nous amène à vivre dans un nuage de croyances et des choses, encore une fois, qui s'installent de façon subtile. Et on va voir que parfois nous portent malheur, parce que c'est des choses qu'on donne une qualité de vérité biblique, mais ce n'est pas le cas. Certains d'entre vous vous en souviennent peut-être, lors de ma première prédication ici même, dans cette église, il y a 8 ans, quand j'ai prêché pour la première fois, mon français à l'époque, il n'était pas encore très, très mûr, j'avais intitulé mon premier message « Le Dieu qui aime faire la fête ». Je ne sais pas si vous vous en rappelez, ceux qui était là à cette époque-là, mais je me rappelle que la réaction de plusieurs personnes après le culte, il y en a certains qui ont venu me voir, pas tout à fait pour me le reprocher, mais pas loin de ça, avec une vraie inquiétude en me disant « Pedro, tu sais, fais attention, en disant que Dieu aime faire la fête, tu es un petit peu à la limite d'être irrespectueux envers Dieu. » 8 ans plus tard, me revoici devant vous, et je me présente avec exactement la même conviction en tête, en espérant que la manière dont ce matin je vais formuler mes propos ne va pas vous déranger. Ne vont pas vous déranger parce qu'elle me semble être une vérité biblique inaltérable. Celle d'un Dieu qui est notre Dieu, notre Créateur, notre Père, mais qui aime aussi passer des bons moments avec chacun de nous. Mon travail de terrain, vous le savez, pour ceux qui me connaissent, m'amène à parcourir l'Hexagone et à être en lien étroit avec presque la plupart des familles et unions d'Église, dans toute la richesse de la diversité protestante évangélique. Et quel que soit le milieu, quelle que soit la région, le constat, me semble-t-il, est le même. Le vrai drame, ou en tout cas un drame dans la vie de tant de chrétiens, ce n'est pas forcément un manque de foi ou un manque de connaissances bibliques. C'est un problème des croyances religieuses faussées et des schémas mentaux enfermants, fruit d'une culture religieuse, et donc qui nous a fait installer dans nos logiciels des choses qui, à un moment donné, on donne comme une vérité biblique, mais qu'on ne questionne plus. Et souvent, des exemples que je ne vais pas donner tout de suite, mais dans l'idée générale, quelqu'un qui parfois me dit « Ah non, mais ça, c'est la Bible qui le dit », et lorsqu'on va vérifier le texte biblique ou la Bible dans son ensemble, en fait, la Bible ne dit pas ça. « Ah oui, non, mais moi, j'interprète ceci comme ci et comme ça. » Alors voilà, là, on est dans le domaine de l'interprétation. Mais d'abord, rendons à la Bible, est-ce qu'elle est à elle. Nous nous demandons souvent pourquoi, malgré parfois notre foi sincère, certaines choses ne marchent pas dans nos vies. Pourquoi nous portons En tout cas, nous avons la sensation de porter un poids. Mais semble-t-il que c'est parce que nous avons peut-être laissé s'infiltrer ces fausses idées, des idées accablantes et souvent très répandues, mais qui font ravage discret, mais profond. Et l'apôtre Paul nous met en garde sur ces aspects-là. Est-ce que tu peux passer la prochaine? Et là, vous savez, les trois textes bibliques de base qui sont importants d'avoir en arrière-plan, là où l'apôtre Paul nous interpelle. Et déjà à cette époque-là, il interpellait l'Église de l'époque pour leur dire « Attention, attention, ne soyons des enfants flottants et emportés à tout vent de doctrine par les supercheries des hommes, par le ruse dans les moyens de la séduction. Ne vous laissez pas entraîner, dit en hébreu, par des doctrines diverses et étrangères. » D'ailleurs, c'était le combat permanent des prophètes dans l'Ancien Testament de combattre toutes ces idées, ces influences des peuples voisins du peuple d'Israël qui venaient s'infiltrer dans la manière de voir les choses des Hébreux. Prenez garde, dit Colossiens 2:8, que personne ne fasse de vous sa proie par la philosophie ou par une vaine tromperie, s'appuyant sur la tradition humaine ou la tradition des hommes, sur les rudiments du monde, et non sur Christ, et non sur ce que la Bible nous apprend. Donc effectivement, l'apôtre Paul nous met en garde contre les courants de pensée qui nous emportent. Et le piège le plus subtil, c'est souvent notre propre culture religieuse qui entraîne des choses. En début d'année, Michael, rappelle-moi, c'était janvier-février, il avait prêché à une prédication qu'il avait intitulée, tu me corriges hein, si je me trompe, comme est-ce que Dieu nous regarde. Et quelque chose qui est très important, et moi je me pose la question dans l'autre sens, comment est-ce que nous regardons Dieu? Comment est-ce que nous nous représentons Dieu, pas seulement par notre expérience, mais par notre connaissance biblique? Et aussi, je me pose la question, pas seulement comment nous regardons Dieu, qui est notre Dieu, pas ce que nous savons de Dieu, mais quelle est notre expérience vivencielle, si on pourrait le dire comme ça, avec lui. Quel est l'apprentissage de nos 5, 10, 15, 20 dernières années, des choses que notre relation personnelle avec Dieu nous a appris. Une autre question qui me semble importante aussi, c'est comment la société regarde-t-elle Dieu à travers le filtre de nos églises ou des religions, toutes religions confondues. Soyons honnêtes, parfois, les spectacles que là où les religions renvoient ne donnent pas envie. On se pose la question, est-ce que les non-croyants ne viennent pas à Dieu parce qu'ils refusent la foi? Certainement oui, et pour certains c'est vrai. Mais à quel point aussi nos églises n'ont-elles pas contribué depuis des décennies, depuis des centenaires, à forger une image de Dieu comme d'un Dieu ravageur, sévère, triste? Il me semble qu'on a fabriqué un Dieu tyran, oui, dont la religion serait un renoncement total à la joie, au plaisir, à l'art, à la musique et tout simplement à la vie. Je parle de comment je pense et comment les gens à l'extérieur voient la religion ou les religions. Dimanche dernier, ou les dimanches derniers, François nous a rappelé à partir de 1 Samuel que Dieu ne se fie pas aux apparences, qu'il regarde le cœur. Ça, c'est dans l'Ancien Testament. Et dans le Nouveau Testament, Jésus, à son époque aussi, dénonçait la comédie religieuse et l'hypocrisie des pharisiens et des hommes religieux, qui ne faisaient qu'ajouter des fardeaux, aux hommes et femmes de l'époque, qui au lieu de les rapprocher de Dieu, les éloigner de Dieu. Différencions bien évidemment l'apparence, le masque d'austérité qu'on s'impose, et le rayonnement, qui est vraiment le concept biblique, le vive de l'esprit en nous. J'aborderai en 5 points ce qui me semble être des essentiels, pas tout, bien évidemment, je fais un choix. dans des amorçages, des situations ou des idées, des fausses idées qui pourraient être source de tensions dans la vie chrétienne, à cause de la mauvaise interprétation de certaines vérités bibliques qui deviennent souvent des poids ou des fardeaux, comme je viens de le dire, dans nos vies, en nous empêchant de bien ou mieux progresser. La prochaine. Dans le premier, c'est un principe de précaution de ma part, mais en même temps, ça fait déjà partie du premier point. C'est la question du péché et les stratagèmes de l'ennemi par rapport au péché. Et ici, je dois, avant de continuer, donc poser un principe de précaution indispensable devant vous. N'entendez pas, s'il vous plaît, ce que je ne dis pas. Parce que là, il y a souvent quelque chose qui se joue. Ah oui, mais Pedro, là, tu n'as pas dit ça. Donc, le fait de ne pas le dire, c'est comme si je le niais. Donc, attention. N'entendez pas ce que je ne dis pas. Je ne prétends pas banaliser, supprimer ou minimiser l'importance du péché dans nos vies. Le péché est une réalité tragique et qui ruine, qui sépare l'homme et la femme des dieux. Mon but n'est pas absolument pas de faire comme si le mal ou le péché n'existait. Mais voici le drame dans nos milieux religieux. On a mis, me semble-t-il, trop souvent l'accent tellement fort et parfois uniquement sur le péché, au détriment de tous les autres aspects de la spiritualité et de la vie. Et cela que réside la stratégie de notre adversaire. Jésus nous prévient dans l'évangile des Jean en disant que le voleur ne vient pas que pour voler, qu'il vient que pour voler, égorger, étouffer, détruire. Et comment ça s'opère-t-il ? De façon très subtile. Notre ennemi, il est plus dans la confrontation, on va dire, frontale, directe, c'est dans la subtilité. Et chez les non-croyants, il leur fait croire que venir à Christ, c'est entrer dans une sorte de pénitencier, en prison, triste, où tout est interdit, parce qu'ils ne viennent justement pas au salut de Christ. Ou tout simplement leur faisant croire que Dieu n'existe pas, ou que le péché est une invention de religion pour soumettre les peuples. Et chez nous, les croyants, ils essayent de nous enfermer dans une obsession, et voilà le mot-clé, de la faute et de la culpabilité, pour nous maintenir dans une forme de vrai ratatiner, si on peut le dire, qui nous éloigne, en tout cas c'est son intention, qui essaye de nous éloigner de la joie de Dieu et du projet de bonheur qu'il a pour nous. Ne faisons pas le jeu d'adversaire, j'ai envie de vous dire, mes frères et sœurs, ce matin. Ne réduisons pas la vie avec Dieu à la seule comptabilité de nos fautes et de nos erreurs. Point numéro 2, la suivante. Démasquer des fausses croyances. Il y en aurait tellement, 10, 15, 20, sincèrement. Là, je veux juste parler de 4, rapidement, qui me semblent extrêmement importantes. Et la première en lien avec la rupture de l'autoritarisme patriarcal. Et avant toute chose, à nouveau, je prends mes précautions. Je veux le dire en toute fraternité, je sais qu'il existe dans nos milieux deux courants de pensée, le courant complémentariste et le courant égalitariste, par rapport à la question de la femme par rapport à l'homme et l'homme par rapport à la femme, et les rôles qui jouent l'un et l'autre dans le projet des dieux, dans leur vie et dans la vie de l'Église et du monde. Pour ma part, je ne me cache pas, mon regard biblico-théologique, et j'insiste sur biblico-théologique, parce qu'on peut faire la théologie à partir d'autre chose que la Bible, mon regard biblico-théologique et ma compréhension de l'Écriture sont pleinement égalitaristes. Mais attention, je ne tiens pas là à venir vous convaincre de quoi que ce soit, ou vous dire que ceux qui pensent dans une vision complémentariste ont tort. J'ai envie de vous partager, par contre, mes réflexions, parce que dans le travail de mon ministère, je constate une souffrance de terrain immense chez nos frères et sœurs, et tout particulièrement chez nos sœurs, qui vivent ça vraiment comme une asymétrie, une souffrance, que je pense que l'apôtre Paul est venu justement essayer de corriger, mais que peut-être on n'a pas forcément très bien compris. Laissez-moi aborder cette croyance extrêmement répandue. Pendant des siècles, la tradition religieuse complémentariste a interprété la lettre aux Éphésiens comme, et je le dis respectueusement, un manuel de soumission féminine, en répétant que le mari serait l'autorité du foyer ou la tête de la femme au sens d'une domination. Je pense que ce n'est pas ce que l'apôtre Paul voulait dire. Même si certains parmi vous ce matin ont cette sensibilité différente, il y a quand même un socle commun indiscutable, sur lequel la Bible nous réunit tous. Paul vient corriger avant tout une asymétrie autoritariste. Qu'on soit complémentariste ou égalitarien, il vient corriger une asymétrie autoritariste qui ne peut plus continuer à exister. La femme n'est en aucun cas un croyant de deuxième catégorie. Dans mon ministère d'aumônier, vous savez, j'ai des responsabilités au niveau régional et national. Actuellement, je suis confronté à discuter avec trois grandes familles unions d'église, parmi les plus grandes unions et familles d'église du monde protestant évangélique, pour la question justement des femmes dans le ministère d'aumônier. Je pense que la femme a toute sa place pour être aumônier de prison, aumônier d'hôpital, et bientôt peut-être aussi aumônier dans les foyers d'enfants. Vous savez que c'est un projet qui est en cours. Mais il y a des résistances et sincèrement, me semble important de pouvoir en parler parce que c'est source de souffrance. Mon regard, et sans vouloir vous convaincre de quoi que ce soit, mais juste pour pouvoir vous partager quels sont les grosso modo trois grands principes sur lesquels je fonde mon regard, c'est que lorsque Paul dira « Car le mari est le chef de la femme, comme Christ le chef de l'Église, qui est son corps et dont il est le sauveur », il est clair dans ce texte biblique, mais bien évidemment je ne me refocalise que uniquement pas sur celui-là, la tête souveraine et directe de la femme, c'est Dieu lui-même. Et la tête souveraine et directe de l'homme, c'est aussi Dieu lui-même. Parce que Christ est le chef de l'Église. Et vous savez, souvent on a eu tendance à dire l'Église égale la femme. Donc comme Christ est la tête de l'Église, donc l'homme est la tête de la femme. Mais en fait, l'Église est composée de qui ? L'Église est composée d'hommes. Et des femmes. L'Église est composée d'hommes et de femmes. Le fait qu'en Corinthiens, 1 Corinthiens 11, 3, qui est un verset aussi qui parfois peut être pris selon les interprétations en faveur ou en contre, Dieu est le chef de Christ. Et cela est décisif pour casser toute idée, me semble-t-il, totalitariste. Je ne parle pas de la symétrie des rôles, je parle vraiment de ce totalitarisme qui s'exprime à un point où finalement la vie spirituelle de la femme, elle se voit étouffée et presque dans la pratique considérée comme un croyant de deuxième catégorie. C'est mon constat. Dans la Trinité, le Père et le Fils sont d'une même nature, égaux en dignité, mais s'inscrivent dans une relation d'amour où le Fils accomplit la volonté du Père. Si l'homme est à la femme ce que Dieu est à Christ, il ne s'agit en aucun cas d'une infériorité de nature ou des statuts spirituels. Je termine en disant que Paul, il fait bien aussi, avant de commencer à traiter ce sujet, de dire et de poser un principe directeur. Paul va dire « Soumettez-vous les uns aux autres ». Dans la crainte de Christ, c'est la réciprocité de l'amour, pas de la tyrannie. Cette asymétrie est une dérive, me semble-t-il, clairement poursuite. Et finalement, la question des dons de l'esprit. Regardez ce que dit l'Écriture en 1 Corinthiens 12. Un seul et même esprit opère toutes ces choses, distribuant à chacun en particulier comme il veut. C'est l'Esprit Saint qui donne les dons. Nulle part dit dans la Bible où il est écrit qu'il y aurait des dons spirituels réservés aux hommes et d'autres réservés aux femmes. L'Esprit souffle où il veut, il dote, il équipe, à qui il veut, comme il veut, pour l'édification du corps de Christ. Mais le point central, au-delà de quel positionnement on peut avoir par rapport à cette question-là, c'est la asymétrie qui empêche et qui pousse aux femmes à vivre dans la pratique une vie qui n'est pas pleine, abondante, telle que Dieu et Jésus le souhaitent pour chacun de ses enfants, hommes et femmes, grecs ou juifs, blancs et noirs, pour tout le monde, puisqu'il est venu nous rendre libres et casser justement toutes ces chaînes qui sont en lien ou liées aux aspects socioculturels et qui s'installent dans nos schémas de pensée au point qu'à un moment donné, ils deviennent des vérités qu'on ne questionne plus. Mais lorsqu'on va regarder la Bible, souvent, pas toujours, mais souvent, il n'y a pas vraiment un fondement biblique, c'est plutôt une interprétation. Et ce qui devrait nous dire tout simplement, de prendre tout ça avec beaucoup de précaution et d'examiner le résultat de nos actions et de nos décisions. Un deuxième aspect, c'est un exemple de fausses idées, c'est la vraie spiritualité. Là, dans le diaporama, il y a les idées clés, hein. C'est pas schématique. C'est la vraie spiritualité n'est pas un monachisme. Et là, je reprends quelque chose qui a été dit par Michael aussi dans sa prédication il y a quelques mois. Une autre fausse croyance consiste à penser que la spiritualité, et là je change de thème, ne s'exprimerait qu'en allant, et je pousse le trait, hein, je le fais exprès, à l'église ou en s'isolant du monde. Vous savez, au Moyen-Âge, toute une tradition ecclésiale a enfermé des gens dans des monastères pour passer leur journée à prier, coupés de la réalité, ce qui est justement tout le contraire de ce que Dieu nous demande. Michael, tu nous as rappelé la chose suivante, tu as dit, il ne faut jamais opposer spiritualité et travail. Ouais. Parce que parfois on a même l'impression que on peut avoir le regard que le travail n'est pas quelque chose de spirituel. Et que lorsqu'on est dans le travail, ou on est dans des actions, ou des activités, ou des tâches, autres que être à l'église, ou en lien avec tout ce qui relève de la religion, ou la foi, ou l'église, ça serait non spirituel. Comme des activités aussi de deuxième catégorie. Les spiritualités, me semble être la manière dont nous incarnons au quotidien les valeurs selon Dieu de notre vie, dans chaque action, dans chaque décision. On ne devient pas plus spirituel en s'isolant dans une boule religieuse. D'ailleurs, regardez Jésus. On lui a reproché d'être l'ami des pécheurs et des gens de mauvaise réputation. Jésus était au milieu des gens, dans la rue, au repas, pluriel, au travail. La spiritualité chrétienne est l'habitation concrète de la présence de Dieu dans chacun de nos actes quotidiens et au quotidien. Je me permets au passage juste de nous rappeler, de me rappeler aussi, de ne pas imposer nos standards personnels, nos normes personnelles aux autres. C'est déjà une forme de jugement. Ah Pedro, là, tu aurais dû faire ceci, ou tu aurais dû dire cela, ou pourquoi tu n'as pas dit ceci, ou pourquoi tu n'as pas dit cela. Il y a encore deux choses sur ces points-là, des fausses idées, qui font un ravage dans nos vies et qui sont tellement ancrées que parfois c'est tellement subtil, mais on grandit avec ça. Et là, je ne vais pas trop m'attarder, c'est sur la question de l'évangile de la prospérité et la réalité de l'évangile de la prospérité, l'évangile de la pénalité, comme je l'appelle. L'évangile de la prospérité affirme à tort que si tu souffres, c'est que tu manques de foi. Si tu ne prospères pas, donc forcément il y a un péché caché quelque part. Donc, tu es suspect. En revanche, de l'autre côté, l'évangile de la pénalité affirme que le corps et le plaisir sont du péché et qu'il faudrait souffrir pour être saint. Ça a flashé un peu à l'image des moines au Moyen-Âge. Et c'est tout aussi faux. Dieu, le créateur des sens, du corps, de la joie, Vous savez, il y a des versets comme celui de David lorsqu'il va dire « Dieu aime l'esprit brisé » qui parfois font penser ou véhiculer ces choses-là. Ah, mais Dieu aime l'esprit brisé. Et quand on analyse vraiment ce verset dans son contexte, on arrive à conclure que c'est une expression d'une conviction personnelle de David et qui est contextualisée dans la situation qu'il venait de vivre, dans le meurtre qu'il avait commis. Il s'agissait de sa conduite personnelle et pas de briser l'esprit humain. Mais croyez-moi que ça m'arrive de l'entendre, comme si Dieu il prenait plaisir à briser l'être humain. Et une dernière chose, c'est que Dieu ne nous envoie pas le malheur. Et je sais que là, on pourrait avoir des divergences aussi. Répéter que tous les pépins de la vie sont des épreuves envoyées par Dieu, personnellement, je ne suis pas très convaincu. Mais à la lumière des Écritures, après, on peut discuter, échanger, et c'est tout à fait une bonne chose de le faire. Pas dans le but de nous dire qui a tort, qui a raison, mais vraiment dans un esprit d'édification. Jacques 1, 13 dit « Dieu ne prouve personne par le mal. » Dieu ne prouve personne par le mal. Job 2, 10, un verset qui est souvent utilisé, dit « Nous recevons de Dieu le bien et nous ne recevrions pas aussi le mal. » Comme si la Bible, Dieu était en train de nous dire par un dogme que le mal viendrait des dieux aussi. Je ne pense pas. Le psaume 51 va nous dire que les sacrifices agréables à Dieu, ce que je disais tout à l'heure, c'est un esprit brisé. Et à partir de là, on conclut des choses qui sont hors sujet. Dieu ne crée pas le malheur, mais selon Romains 8, 28, il fait en sorte d'en tirer des bonnes choses, des mauvaises choses qui nous arrivent. Vous saviez méditer, dit Paul, de me faire du mal, mais Dieu l'a changé en bien. Dieu, il est le maître du retournement situation. Il prend ceux qui voulaient nous détruire et nous aide à en tirer un bien inattendu. Une autre chose, et je termine par là, c'est la question, donc c'est le point numéro 3. Dieu, source de la vie et de la joie. Rappelons un argument massif de l'Écriture. Dieu est le Dieu de la vie. Le Dieu Hai qu'on a chanté tout à l'heure. La source absolue de la joie et de l'allégresse. Regardons dans l'Ancien Testament comment Dieu a établi le cycle de fêtes ou festivités. D'ailleurs, il y a Shabbat, un temps hebdomadaire de déconnexion totale des réseaux sociaux et du travail pour vivre un temps en famille et en famille, en communauté, avec Dieu au milieu de nous. Mais il y a le cycle aussi des fêtes tout au long de l'année, des périodes de célébration qui duraient parfois plusieurs jours, Pessah, Sukkot, la fête des moissons et tant d'autres. Et que faisait le peuple pendant ces fêtes? Ils dressaient des banquets, on jouait de la musique, on dansait, on célébrait. Ces fêtes, bien évidemment, n'étaient pas que des kermesses superficielles. Elles s'associaient étroitement aussi la joie festive à la sanctification et à la justice sociale, que parfois on laisse un peu de côté. Dieu ordonnait de partager le repas avec les orphelins, les veuves, les pauvres, les vulnérables, ceux qui n'avaient rien. Et le summum, le jubilé, tous les 50 ans. Le sommet de la grâce sociale. Toutes les dettes de ceux qui étaient surendettés ou accablés étaient effacées. Les terres étaient restituées, les serviteurs libérés. C'était une grande remise à zéro, joyeuse, pour réapprendre la liberté, celle que Jésus est venu nous redonner pour nous rendre libres et vainqueurs. Et dit l'Écriture, bien même plus que vainqueurs, par son sacrifice. J'aimerais juste terminer avec cette idée-là, qui me semble important de voir en Dieu un Dieu de la joie, un Dieu de l'allégresse, pas un Dieu rigide, sévère, qui chercherait la souffrance des êtres humains, même de ses enfants, et qu'il y a un Dieu qui laisse même la place à l'humour. Vous savez, Jésus, il a prêché avec beaucoup d'humour, je suis convaincu. Je ne sais pas si vous imaginez un texte biblique ou un passage, une parabole qui pourrait illustrer cette idée-là, mais je vous montre la suivante, ça va vous dire peut-être quelque chose. Bon, à l'époque, bien évidemment, il n'y avait pas un diaporama. Mais si on s'arrête juste à penser que quand Jésus y parlait, ou il prêchait, ou il enseignait à son époque, moi, je pense que si j'avais été dans le public, j'aurais rigolé. Je trouve que c'est quand même une belle caricature d'enseigner comme ça. Là, je l'illustre par une image. Mais l'idée elle-même, elle est là, vous voyez, même s'il n'y a pas l'image visuelle. Tu peux montrer l'autre, s'il te plaît ? Elle utilise quand même la caricature, on est bien d'accord. On est bien d'accord qu'il y a, pour moi en tout cas, j'aperçois un petit peu d'humour, un sens de la caricature, pour essayer d'illustrer, d'interpeller, de provoquer, de même choquer, vous voyez, le public, en faisant appel à des images, à des absurdes, qui pourraient même faire nourrir. Je sais pas, quand je lis ce texte-là, ça me fait rire. Je trouve ça drôle, mais bon, après, c'est que moi. C'est que moi. Mes frères et sœurs, je termine juste par dire que peut-être la chose la plus dure à vivre dans le monde chrétien, c'est aussi la question de nos émotions, le rétablissement de nos émotions. Les émotions font partie de la création divine. Elles sont des signaux vivants, une boussole interne conçue par Dieu pour nous informer sur notre état intérieur, notre environnement et nos besoins. Ressentir la peur, de la tristesse, la colère ou de la joie n'est en aucun cas une défaillance spirituelle, ni ça relève pas non plus du péché. L'expression biblique « n'aie pas peur » n'est pas une injonction morale exigeant de réprimer, d'annuler ou d'anesthésier nos ressentis. Entendre dire à quelqu'un qui a peur de mourir, et je parle d'un croyant, où est ta foi ? Pedro, où est ta foi ? Tu n'as pas à avoir peur. Vous voyez, ça procède d'une culpabilisation injustifiée. La peur est une réaction humaine naturelle face au danger ou à l'inconnu. Le Christ même a pleinement habité l'éventail des émotions humaines sans pour autant jamais pécher. Sans pour autant jamais pécher. J'aimerais juste que tu ailles à la dernière, donc la conclusion, avec un corollaire des idées de cette prédication ce matin. Répartons dans la liberté, parce que c'est pour la liberté que le Christ nous a affranchis, dit Galates 5. Ne nous laissons plus remettre sous le joug de la servitude légaliste et de la culture religieuse qui n'est pas fondée sur les Écritures. Ne réduisons plus notre foi à la seule peur du péché. Rompons avec la symétrie autoritariste. Ne nous isolons pas du monde dans une sorte de monachisme religieux. Vivons dans le monde, n'ayons pas peur du monde. N'attendons pas la mort pour connaître Dieu parce que on le connaît d'ores et déjà. C'est d'ores et déjà la vie éternelle. Réalisons le projet de bonheur et les missions que Dieu a prévues pour chacun. Selon son plan, en demandant à Dieu de nous enseigner à bien compter nos jours, afin que nous puissions nous appliquer dans notre cœur à la sagesse. Et soyons avant tout des sources d'eau vive. Vivons, frères et sœurs, une foi si vraie, si belle, si remplie du goût de vivre, que notre vie puisse donner envie au monde d'aimer ou de chercher Dieu. Paix éternelle. Ce matin, je te rends grâce, je te dis merci et que ta parole puisse continuer à travailler dans nos cœurs, dans nos vies, dans ce cheminement personnel qui est singulier, unique et individuel et personnalisé à chacun de nous par rapport à toi. Pour que nous puissions, Seigneur, avancer et progresser à notre rythme, dans le chemin de foi, Seigneur, que tu as prévu pour chacun de nous. Et qu'en même temps, en tant qu'Église, en tant que communauté, nous puissions nous épauler, nous soutenir les uns les autres. Et vivre, Seigneur, selon ta volonté, en escrutant, en examinant, Seigneur, nos pensées, nos schémas de pensée et tout ce qui est dans notre culture religieuse, pour le passer, Seigneur, vraiment à la lumière de ta parole, et que nous puissions nous débarrasser de tout ce qui a l'air d'être juste et bon, mais qui ne l'est pas. Et tout ça, Seigneur, selon ta volonté dans nos vies. Au nom de Jésus.